Bonsoir et bon début de semaine à tous. Malgré la feuille de route du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectif et en matériel en provenance du Rwanda. Cette déclaration est du porte-parole militaire des FRDC, le général Sylvain Ekenge. Pour lui, le pouvoir de Kigali et le M23 sont en train de saboter toutes les décisions prises par les chefs d'État de la région. Le porte-parole des FRDC, le général Sylvain Ekenge, intervenait dans un message diffusé sous la radio-télévision nationale congolaise lors du briefing des presses des jeudi 1er décembre 2022, organisé par le ministre de la Communication et des Médias conjointement avec ses collègues des droits humains et des affaires sociales. Plus d'une semaine après, quelle évaluation a mis parcours faire de la mise en application de la feuille de route issue du sommet de Luanda? Nous en parlons ce soir avec le professeur Martin Ziakwaou. Il est docteur en relations internationales et professeur d'université. Il est chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC et auteur de l'ouvrage Corps cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Professeur Martin Ziakwaou, bonsoir.
Bonsoir madame.
Maître Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, Jacques en sigle. Maître Rigen Miviri, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tout le monde.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Au Nord Kivu, près de 10 jours sont passés depuis l'expiration, le 25 novembre dernier, du moratoire accordé par le mini-sommet de Luanda aux rebelles du M23 de quitter les zones qu'ils occupent dans le territoire de Rutshuru. Pour savoir comment évolue la situation sur le terrain actuellement, nous en parlons avec Bernardin Nyangui depuis Goma.
Bonjour Bernardin.
Oui, bonjour Guimaté.
Y a-t-il quelques signes du respect de cet appel des chefs d'État?
Oui, Guy, il faut dire que selon plusieurs sources que nous avons contactées dans le territoire de Rutshuru aujourd'hui, une accalmie règne donc ce lundi sur toutes les lignes entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, mais aussi entre ces rebelles et les groupes armés. C'est notamment dans le groupement de Bambo, Binza et Bishusha, territoire de Rutshuru, ainsi que celui de Kibumba, territoire de Nyiragongo. Ces sources nous précisent aussi que l'appel de cessation des hostilités, en particulier des attaques du M23 contre les FRDC et la MONUSCO, dès le 25 novembre à 18h, n'avait pas été respecté du tout. Même chose pour celui du retrait du M23 des zones occupées et son repli dans les positions initiales vers le mont Sabinho, est de Rutshuru, tel que prévu au point 8A et 8E, de cette feuille de route ayant sanctionné, comme vous le savez, le 23 novembre dernier, ce mini-sommet de Luanda. Par contre, les rebelles continuent de renforcer leur position dans la zone occupée. Aussi, d'autres groupes armés comme les Nyatour, APCLS, FDLR, pour ne citer que cela, qui sont aussi sommés de déposer les armes, se coalisent actuellement et renforcent plutôt leur position autour des principales lignes de front.
Et qu'en est-il du déploiement de la force régionale dans la zone occupée par les rebelles?
Du fait que l'appel de cessation des hostilités n'avait pas été respecté, la force régionale, constituée jusqu'ici des troupes kenyanes et basées déjà à Goma, sont déployées dans la zone occupée par les rebelles du M23. Toutefois, lors de leurs travaux à Goma du 28 au 30 novembre dernier, Le groupe d'experts de l'EAC avec le commandement des forces de la MONUSCO ont élaboré un cadre de collaboration et de coordination des offensives conjointes FARDC, forces de l'EAC et la MONUSCO, contre le groupe réfractaire au processus de Nairobi et de Luanda. Ils avaient par ailleurs décidé que la force régionale se déploie dès la semaine dernière déjà sur le front contre la rébellion du 1-23 à Kibumba, particulièrement dans le territoire de Nyiragongo, aux côtés des FARDC, bien sûr.
Et pendant ce temps, comment se présente la situation humanitaire dans la zone?
La situation humanitaire est très catastrophique, du fait que c'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est actuellement vidé de plus de la moitié de sa population. Même chose pour les groupements de Bumba et Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Ces populations sont par milliers amassées dans le groupement de Munigi, territoire de Nyiragongo, et même dans la ville de Goma. Les autres ont fui en direction nord, vers le sud du territoire de Lubero. Et pendant ces temps, les autorités coutumières et politico-administratives locales de la chefferie de Buito dénoncent des massacres des populations dans la zone de combat entre les rebelles du 1-23 et les groupes armés locaux, entre autres. Ces derniers citent par exemple le massacre de plus d'une centaine de civils attribués la semaine dernière aux rebelles du 1-23 à Kishishe et environ. Ce qui accroît, bien sûr, vous allez le constater, encore la terreur dans cette zone-là.
Merci beaucoup, Bernardin Nyangui.
Merci à vous, Guimaté.
Professeur Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université. Vous êtes chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC et auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Malgré la feuille de route du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectif et en matériel en provenance du Rwanda. Cette déclaration est du porte-parole militaire des FARDC, le général Sylvain Ekenge. Professeur Ziakwaou, quel acteur vous faites de cette situation? Fallait-il s'y attendre?
Je pense que le plus important qui devrait déterminer la suite des événements après le mini-sommet du 23 décembre, c'est la perception que les parties prenantes ont ou devraient avoir de la feuille de route qu'elles ont elles-mêmes signée. Il faut souligner que le mini-sommet de Luanda a consisté en deux points. Premièrement, il y a la cessation des hostilités et particulièrement les attaques du M23 contre les FARDC. Et d'autre part, il y a la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. Alors, il faut rappeler peut-être que le processus de Luanda consiste fondamentalement à maintenir le dialogue entre Kigali et Kinshasa, tandis que le processus de Nairobi renvoie à une dynamique devant aboutir au rapatriement de groupes armés étrangers opérant dans l'est de la RDC, ainsi que le désengagement, je voulais dire le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des combattants des groupes armés locaux. Et donc, il y a lieu de constater qu'il y a une escalade de violence verbale entre Kinshasa et Kigali depuis le dernier mini-sommet, qui semble, de mon point de vue, constituer une entrave à ce qui devrait être le résultat dans les postures du M23, et ce qui devrait mobiliser en même temps les acteurs à Nairobi de développer la dynamique attendue pour la désescalade. Et donc, si nous constatons que le vrai problème, selon les postures discursives de la RDC, selon lesquelles c'est le Rwanda qui agresse le Congo, et donc le vrai problème, c'est au niveau des perceptions de cette feuille de route par le Rwanda et la RDC qui malheureusement se retrouvent dans une situation de détérioration de la confiance au plus haut sommet, et c'est sur la place publique. Et donc je ne suis pas étonné malheureusement que la feuille de route n'ait pas encore connu un début de mise en œuvre. Par ailleurs, je voudrais également faire remarquer que si le premier point devrait consister à la cessation des hostilités et à la cessation des attaques d'une manière particulière du M23 contre les FARDC, il y a une réponse qui a été prévue à cela. C'est le point 8E de la feuille de route qui devrait consister pour la force régionale d'intervenir contre les positions du M23. Là aussi, il n'y a pas de mise en œuvre. Et un peu plus loin, au point 8F, il était prévu que 2 jours après la signature de la feuille de route, qu'il soit élaboré les conditions d'occupation des zones jusque-là sous contrôle du M23 et que ces derniers devraient libérer pour revenir à ses positions initiales dans la localité de Sabidio. À ma connaissance, il n'y a pas eu mise en œuvre de cette action pourtant prévue dans la feuille de route. Donc à ce niveau, l'on peut donc constater que la feuille de route n'a pas enregistré d'avancée quant à sa mise en œuvre, nous pouvons questionner et mettre en lumière les responsabilités des différentes parties prenantes puisque la feuille de route consiste en un calendrier d'actions prioritaires à mener par des acteurs très bien identifiés et selon les délais aussi bien définis.
Mais professeur, pensez-vous vraiment que cette feuille de route sera appliquée par les parties prenantes? Déjà pour les 48 heures, ça n'a pas été respecté, les M23 ne se sont pas retirés de leur position. Vous venez de le dire, il n'y a pas eu intervention de la force régionale contre les M23 parce qu'ils n'ont pas respecté la feuille de route. Est-ce que vous pensez vraiment que cette feuille de route sera appliquée?
Je pense qu'il y a d'abord un problème de perception puisque l'accord ne vaut que ce qu'en pensent les parties prenantes. On peut multiplier des accords, il y en a eu plusieurs, il y a des sérieux problèmes de mise en œuvre parce que certainement la perception que les acteurs en ont ne va pas dans le sens de l'appliquer comme c'est écrit, mais ça va plutôt dans le sens de constituer des motifs de divers ordres. Mais je pense que à ce niveau, nous pouvons plutôt inscrire le questionnement dans le sens de mettre en évidence finalement ce que pourrait être demain le rôle de la force régionale. Parce qu'en réalité, il y a une tierce partie, non de moindre, puisque engagée dans une action militaire, devant servir d'une part d'éléments de coercition et de pression sur le M23 pour se retirer, mais d'autre part, devant également créer les conditions d'une résolution pacifique parce que selon le point 8F de la feuille de route, les zones aujourd'hui sous occupation du M23 qui devraient les libérer devraient être occupées par la force régionale. On ne l'appelle pas ainsi dans la feuille de route, mais en réalité, il s'agit d'une zone tampon. Et donc, le point 8F de la feuille de route devrait consister pour la force régionale de définir les conditions d'occupation de cette zone. Certains ne veulent pas l'appeler zone tampon parce que ce n'est pas dit ainsi dans la feuille de route, mais la substance du point 8F établit clairement qu'il s'agit d'une zone tampon. Il faudrait donc définir les conditions d'occupation. Il y a notamment les conditions d'ordre légal, s'agissant notamment de la neutralité de l'espace. Lorsque nous savons que le porte-parole du gouvernement insiste sur le fait que la force régionale n'opérera pas sans le concours, sans l'accompagnement, sans la présence des FRDC, mais il y a également les conditions logistiques. Et là, il y a la problématique du financement. Est-ce que la force régionale dispose aujourd'hui du financement requis pour passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre des actions qui relèvent de sa responsabilité, mais il faudrait peut-être aussi donner l'information consistant à dire que d'ici le 19 décembre, le Conseil de sécurité va renouveler le mandat de la MONUSCO puisque la résolution 26-12 qui court jusqu'au 20 décembre sera arrivée à terme. Et donc, nous pourrions peut-être attendre jusqu'à d'ici le 19 décembre, pour savoir les termes de la nouvelle résolution devront proroger le mandat de la MONUSCO, pour savoir si le Conseil de sécurité donnera à la mission onusienne la possibilité de collaborer avec la force régionale.
Professeur Martin Ziakouaourou, peut-on parler d'une certaine méfiance entre les parties prenantes, que ce soit au mini-sommet de Luanda ou même à Nairobi, parce qu'on constate que malgré tout ce qui se décide dans ces réunions, rien ne s'applique sur le terrain?
Naturellement, c'est une négociation distributive fondée sur des postures opposées, des acteurs qui sont en contradiction, dans des expressions des violences armées, et donc la méfiance ne devrait pas étonner. Par ailleurs, ce qui devrait constituer un questionnement sur la méfiance, c'est qu'est-ce qui est fait pour créer les conditions de confiance en vue d'amener les acteurs, les parties prenantes, d'avancer vers la paix que nous recherchons. C'est là, à ce niveau-là, que je pense qu'il y a assez de défis. Et jusque-là, les dispositifs qui ont été établis sont d'ordre diplomatique et militaire. D'ordre au niveau diplomatique, nous constatons malheureusement qu'il y a escalade de la violence au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali. Ça ne devrait pas étonner, mais en même temps, nous devrons questionner ce qui est fait pour qu'il y ait des escalades. Au niveau militaire, on constate, comme je l'ai dit, qu'il y a la problématique du mandat de la force régionale, la problématique du financement de la force régionale pour lui permettre de jouer pleinement le rôle qui est censé être le sien. Et donc, si ces conditions sont réunies, la méfiance, c'est tout à fait normal, mais on devrait plutôt constater ce qui est fait pour qu'il y ait une dynamique vers la confiance.
Maître Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC, en sigle. Quelle évaluation vous faites, à mi-parcours, de la mise en application de la feuille de route issue du mini-sommet de Luanda?
Oui, merci pour l'invitation. Oui, je dois dire que le diagnostic qui a été fait, le bilan qui a été fait, je suis d'accord avec ça. Ce sont les informations qu'on a aussi reçues sur terrain. Donc, ça n'a pas beaucoup évolué. Que ça soit le cessez-le-feu, il n'est pas respecté. Que ça soit le retrait du M23 des zones qui l'occupaient, il ne l'a pas fait. Et ça, c'était prévisible. Je pense que tout le monde le savait. D'ailleurs, juste après la signature de ces documents, on a entendu des sources du M23 qu'ils se sentaient pas obligés par ces documents parce qu'ils n'ont pas été sur cette table de pourparler. Et donc, c'était normal que l'on ne puisse pas voir directement des résultats. Toutefois, il y a vu la posture qu'a pris le Rwanda pendant toutes ces discussions. Il s'est présenté par moments comme porte-parole du M23. On pouvait penser que peut-être il pouvait avoir une marge de manœuvre sur le M23. Mais ça reste à se confirmer. Il faut regarder dans quelle mesure les acteurs qui ont été dans ces pourparlers ont un contrôle sur les acteurs qui sont sur terrain, parce que c'est ça le vrai enjeu. Comment les décisions qui sont prises au niveau diplomatique deviennent de réalité sur terrain? Est-ce que les gens qui ont pris ces décisions-là ont la possibilité et le pouvoir pratique de le faire exécuter sur terrain? Et là, c'est ce qui vient, c'est pour ça qu'il faut aussi parler de ce qui a été dit dans l'accord. Si jamais il se retirait pas, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'accord, on parle de la pression militaire aussi, mais en fait, ça, c'est Luanda qui est en train de stipuler pour autrui. Le processus de Luanda stipule pour l'EAC, parce que la force régionale, elle est dans le cadre de l'EAC. Le processus de Luanda, elle est dans le cadre de la CIRGL avec le mandat de l'Union africaine. Est-ce que cet accord-là oblige la force régionale d'intervenir, mais est-ce que, comme le prof Martel a dit, est-ce que la force régionale est déjà opérationnelle et a le moyen financier financier et politique d'ailleurs, de faire respecter ce cessez-le-feu et peut-être aussi utiliser le bâton contre les mouvements le mouvement et groupes armés qui sont actifs dans toute cette zone. Voilà la petite analyse qu'on peut faire de cela. Mais aussi, il faudra regarder maintenant les attitudes que vont prendre les pays de la communauté internationale. On a vu qu'il y a eu des messages pas très forts contre le soutien du Rwanda, mais aussi on a vu aussi des messages contradictoires, notamment l'octroi de 20 millions de dollars à l'armée rwandaise qui est en train de combattre les terroristes au Mozambique. Donc tout ça, dans l'opinion congolaise, ça fait de remous et ça amène aussi de l'incompréhension pour savoir exactement ce que fait la communauté internationale et qu'est-ce que fait les acteurs régionaux pour résoudre ce conflit.
Est-ce que, Maître Rigen Miviri, le fait pour le M23 de ne pas respecter cette feuille de route, est-ce une façon pour ce mouvement rebelle de mettre la pression, de faire pression sur le gouvernement congolais, d'engager des discussions directes avec lui?
Oui, exactement. C'est tout ce que le M23 reproche au processus de Luanda et même celui de Nairobi. C'est le fait que tout ce processus-là, le M23 est exclu. Et bien sûr, on sait aussi pourquoi. On a entendu les explications du gouvernement qui a mis de préalable. Mais voilà, c'est ce que le M23 demande. Et pour eux, tant qu'il n'y aura pas de négociation directe avec le gouvernement, ils ne voudraient pas exécuter cela. Ce qui fait un dilemme, en fait. Parce que le gouvernement congolais dit préalable, quitter les zones que vous occupez et là on pourra discuter. Et ils disent en fait on est ici pour qu'on discute. Alors c'est compliqué de savoir comment ça va évoluer. Pourtant l'escalade, peut-être sur le terrain il y a un calme précaire depuis ce week-end, mais l'escalade verbale de part et d'autre du côté congolais que du côté rwandais fait craindre en fait que ça puisse avoir des incidences même sur terrain. Et donc ça aura aussi compliqué par exemple l'acceptation d'un quelconque dialogue dans l'opinion congolaise avec tout ce qui a été dit, mais aussi avec le récent massacre de Kishishe dont les bilans restent à confirmer toutes les circonstances autour. Ça fait que en fait la possibilité de résoudre ces conflits de manière pacifique elle devient de plus en plus difficile parce que tout le monde campe sur sa position, mais aussi les acteurs sur terrain ils agissent dans le sens où il est plus difficile en fait de négocier dans l'état de choses avec les actes qui sont en train d'être posés, et surtout pour la population l'opinion publique devient de plus en plus contre ces négociations et c'est à raison sur base de ce qu'on voit sur terrain.
Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Dadi Salé, votre lecture sur la situation?
Oui, malheureusement, comme mes prédécesseurs, la lecture est là. Il n'y a pas de résultat sur terrain par rapport au sommet de Luanda et c'était malheureusement prévisible. Au fond, il est difficile et presque impossible de planter des choux et espérer récolter les haricots, sauf par miracle. Et scientifiquement, il est très difficile d'avoir des problématiques et de se faire de mauvaises hypothèses qui ne s'accordent absolument pas et espérer conclure et avoir un résultat scientifique. Au fond, c'est ce qui se passe effectivement. Le professeur Marcel l'a dit poliment. Apparemment, il y a un problème déjà de perception. Et ça, nous le savons. Tout le monde le sait, effectivement. Et je mets ça dans le cadre de ce que je répète chaque fois pour l'instant. C'est un peu une sorte de politique d'Autriche. Ça va pour qu'on ne se dit pas de vérité dès le départ. Et effectivement, une diplomatie naïve, c'est-à-dire avec une politique d'Autriche où on ne sait même pas percevoir la chose de la même façon. Vous avez vu la conclusion, effectivement, au ministre Tomé de la première rencontre. Eh bien, il n'y avait même pas eu des documents signés conjointement. Vous le savez mieux que moi, parce qu'effectivement, la perception était déjà biaisée. Donc, c'est difficile de s'attendre à des résultats sur le terrain. Toutes les décisions qui ont été prises, on a vite compris que sur le terrain, ça n'avait pas d'impact et ce n'était pas respecté. Tout le monde le sait. C'est une politique des polichinelles de dire que d'expertise que nous avons, le lien est clair, cause à effet direct, entre le 1-23 et les gouvernements rwandais, et je dirais même aussi ougandais dans ce sens-là. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas l'accepter officiellement. Ce qui fait que c'est à la République démocratique du Congo, comme ça commence à se faire, en fin de compte maintenant, parce qu'on voit que les dernières déclarations du président de la République vont vers cet angle-là. C'est-à-dire quoi? C'est seulement tous ces genres de conditions qu'un accord signé, tout ce qu'on pourra avoir comme dialogue pourra produire des fruits. Parce que si nous faisons des dialogues un peu, comme je l'ai dit, une diplomatie naïve, une politique d'autrice, c'est-à-dire on ne dit pas des vérités, l'autre pense, comme nous l'avons remarqué, le facilitateur Uhuru Kenyatta est venu et apparemment, si j'avais bien suivi et tout le monde a suivi, il a parlé plutôt des problèmes des conflits communautaires. Ça, c'est Uhuru Kenyatta. Et nous avons rigolé ce qui est grave parce que pour la République démocratique du Congo, nous sommes attaqués par le Rwanda, par d'autres forces qui tiennent bien sûr les M23, mais c'est vraiment le Rwanda et d'autres forces. Je pense qu'il y a même des rapports des Nations Unies qui sont là pour ça. Mais ce facilitateur nous a parlé d'un conflit communautaire congolais, ce qui était déjà biaisé. Nous avons suivi effectivement le président burundais, qui est le président actuel de l'Eastern African Community, qui a dit effectivement tant que le Congo ne s'organise pas, qui n'a pas d'armée, qui nous a même injurié, qui n'a pas d'armée et qui n'a pas de police, et bien sûr, chacun qui viendra pourra se partager et gagner le pas. Au fond, c'est un langage clair pour dire qu'effectivement, on ne peut pas espérer quoi que ce soit des choses-là. Mais si nous prenons le langage effectivement de président rwandais, Paul Kagame, ben, avec arrogance naturellement, ben, lui, il doit défendre une sorte d'ethnie. Malheureusement, c'est très grave ce qu'il a dit et que ben, il faut le faire. C'est un point d'entrée. Et il est prêt à tout pour le faire. Et si nous suivons le fils de Museveni, qui n'est pas une personnalité à minimiser, parce que pour moi, c'est lui qui prend la parole de son père. Qui est clair, il est contre le Rwanda, il est contre l'Ouganda. Et ils sont prêts à défendre mais aussi cet aspect tribal ethnique, malheureusement. On ne peut pas jouer, continuer à jouer au jeu de ping-pong. Ça ne peut pas marcher. Le mini-sommet de Luanda a un défaut, c'est qu'il n'y a pas de bonne perception de cette paix de route. Alors quand il y a une mauvaise perception de paix de route, chacun profite par rapport à ses propres intérêts et surtout par rapport au rapport de force qu'il a.
Dadi Saleh, je vous garde en ligne le temps de prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu.
Zikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Que ce soit les sommets de Luanda et celui de Nairobi, le constat est amer. Toutes ces rencontres, c'est une perte de temps inutile. On ne peut jamais compter sur la bonne foi des criminels. Là, c'est être naïf. Voilà pourquoi la mise en application des faits de route de Luanda ne sera jamais et alors jamais effective. C'est de la poudre aux yeux des Congolais. D'ailleurs, cette feuille de route, il n'y a rien de contraignant pour faire cesser les armes sur le champ de bataille. Pour moi, il n'y a que la capacité dissuasive de nos forces armées qui peut contraindre ces criminels du M23 et son allié le Rwanda à cesser leur aventure sur notre territoire. Et l'on devait travailler sur cet angle. Dans le cas contraire, nous aurons nos yeux pour plaire. Et surtout cette hypocrisie des communautés dites internationales qui n'a jamais condamné la barbarie humaine dont est victime le peuple congolais. Notre gouvernement doit aussi chercher des alliés pouvant nous aider à imposer la paix dans la partie orientale parce qu'il n'évolue pas en vase clos.
Dadi Saleh, commentaire.
Notre ami de Bukavu a 100%, je dirais même plus, 1000% raison. Parce que ça, c'est la perception maintenant de toute, pratiquement toute la population congolaise. C'est clair, noir, c'est blanc. Si nous n'avons pas des situations, ça va être une situation politique, et une situation militaire, et une situation diplomatique, situation sociale, mais aussi situation dans les sens juridiques, ben, effectivement, il a été clair. C'est-à-dire que ce n'est pas les criminels qui vont dire que je ne suis pas criminel, c'est maintenant la bonne foi. Donc, s'attendre à cela, nous avons résumé cela à une diplomatie naïve. Au fond, ce que notre ami vient de dire, c'est trop clair. On ne peut pas s'asseoir sur une table de négociation tant qu'on ne dissuade même pas des mouches. C'est-à-dire, effectivement, que comme je vous ai dit, en diplomatie, il n'y a que des intérêts. Je ne cesse de les répéter, on l'a répéter 1000 fois.
Merci.
Même si vous avez raison. Si vous ne dissuadez personne, toute votre raison n'aura pas de sens. Donc on ne va pas tenir compte de ça. L'ami, l'auditeur a tout à fait raison, mais malheureusement, c'est apparemment seul le gouvernement congolais semble ne pas les comprendre, même si nous sentons qu'il y a des améliorations ces derniers temps, mais ben, il faut prendre des très grandes décisions, comme ça on va bien s'asseoir. On pourra maintenant bien dialoguer. Mais jusque-là, nous avons eu plus de 50 dialogues, discours, etc. Il n'y a plus question de pourparler qui ne vaille la peine qu'il y ait une mauvaise perception des choses.
Professeur Martin Ziakwaou, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mambasa, dans la province de l'Ituri.
Angali Aruna Justin, depuis Mambasa, dans la province de l'Ituri. Cette situation se justifie par le fait que le régime de Kigali et ses terroristes du MV3 tentent de mettre la pression sur Kinshasa et le pousser à revenir sur la table de négociation. Voilà une raison de plus pour le régime de Kinshasa de mettre en œuvre l'ensemble de son arsenal militaire pour anéantir au moyen des armes ces groupes rebelles soutenus par le Rwanda. De leur part, les signataires de cette feuille de route doivent prendre des mesures contraignantes à l'égard du Rwanda et ses MV3 pour faire respecter et appliquer la dite feuille de route ici du sommet de Luanda.
Professeur Ziakwaou, brève réaction.
De mon point de vue, la solution à cette crise est loin de relever de l'ordre militaire. C'est une solution qui nécessite l'approche politique. Pour deux raisons principalement, madame. En 2012, le M23 a surgi et a pris le contrôle de la ville de Goma. Et il y a eu une réaction ferme de ce que l'on appelle par défaut communauté internationale, avec en tête les États-Unis d'Amérique qui ont exercé de très fortes pressions sur le Rwanda. Et le résultat était clair. Le M23 s'est auto-dissous. 10 ans après, le M23 ressurgit, mais l'on constate plutôt une mobilisation très atténuée. Ça signifie, madame, en 2012, lorsque l'on a aidé la RDC au travers de la brigade d'intervention à mettre fin à se défaire du M23, il était convenu que la RDC puisse se remodeler au travers des réformes en vertu des engagements nationaux qu'elle a souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. 10 ans après, le résultat, je dirais pour le moins négatif. Et donc, c'est une occasion pour nous de reconnaître d'une part qu'on n'a pas une armée dissuasive. Tout le monde veut qu'on ait une armée dissuasive. Mais on ne la bâtit pas en un jour, en une semaine. Ça prend du temps. Ça passe donc par des réformes. Mais entre-temps, on fait quoi, madame? Parce que sur terrain, on n'est pas en mesure d'exercer de la dissuasion. Il faut donc dialoguer. Mais dialoguer de manière à ne pas compromettre les intérêts de la République, tout en travaillant pour que demain, il n'y ait pas un nouveau ressurgissement du M23, puisqu'on aura créé les conditions de construction d'une armée républicaine nationale professionnelle. Madame,
ce dialogue, professeur, ça se ferait entre qui et qui, le gouvernement congolais et le Rwanda, ou le gouvernement congolais et le M23?
Avec toutes les parties prenantes au conflit, madame. Avec toutes les parties prenantes. Si nous n'avons pas les conditions d'exercice de la puissance pour imposer un dialogue avec le Rwanda, et que nous n'avons pas malheureusement la possibilité de mobiliser le soutien au niveau du Conseil de sécurité, même pas au niveau de l'Union africaine, encore moins au niveau de l'East Africa Community, je ne veux pas citer la CIRGEL, pour qu'il y ait une force autour de nous en vue de contraindre le Rwanda d'exercer de la pression sur le M23, à un moment, nous serons obligés de discuter avec le M23. Alors, je pense que c'est mieux d'anticiper sur les événements, parce que ces conflits sont à la base de plusieurs situations de marche à reculons du pays. Nous avons la possibilité de faire l'économie des moyens, nous avons la possibilité de faire l'économie des diverses ressources maintenant en train d'être détruites. Nous avons la possibilité de résoudre ce problème par le dialogue, tout en reconnaissant nos faiblesses, nos mauvais étés, parce que les réformes jusque-là, madame, n'avancent pas.
Maître Rigan Miviri, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Monsieur Kalonji, depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je suis très content pour cette thématique qui est très pertinente. Surtout, nous sommes très désolés et très déçus de constater ces grands sabotages face aux efforts fournis par les États africains, par les sommets. Par ces sabotages, nous appelons à nos autorités africaines et congolaises en particulier de faire appliquer les outils de guerre face à ces groupes, sinon ces groupes apparaîtraient plus forts que les systèmes étatiques africains. Il faut aussi noter que la communauté internationale n'a pas posé un acte d'accompagnement face à cette situation chaotique en termes de financement ni en termes de munitions de guerre. Voyez-vous, elle a fait une faveur à l'Ukraine, mais par ici, nous comprenons aussi que le régime congolais doit prendre les responsabilités et d'affronter par les outils de guerre ces groupes armés au lieu de ces guerres. Et surtout aussi ne pas plus compter aux autorités internationales pour quitter un peu dans la politique d'extravertis en termes de ou en situation de guerre.
Maître Rigaine.
Oui, je suis en partie d'accord avec le compatriote, mais je dois dire que ouais, tout le monde parle de la RDC et de réformes qui doivent être faites en RDC, c'est à juste titre en fait. Le grand défi ici, c'est l'État. Qu'est-ce qu'on fait encore pour la construction de l'État? Un État qui sera capable de défendre son intégrité territoriale, un État qui sera capable de se faire respecter par les autres. Et donc, même le soutien étranger devait être inscrit dans cette logique-là, d'aider l'État congolais à exister sur le plan sécuritaire, et parce que de toutes les façons, la défense de l'intégrité territoriale revient au FRDC. Et heureusement, on a vu, par exemple, dans la feuille de route de Luanda, ce que on a demandé au M23 de cesser les hostilités, mais on l'a pas demandé clairement au FRDC. Pourquoi? Parce que partout, on doit reconnaître que de toute façon, ce que les FRDC sont en train de faire, c'est défendre l'intégrité territoriale. C'est ça le rôle d'une armée dans un pays. Mais pour faire respecter cette intégrité territoriale, on doit avoir une armée républicaine et qui a les capacités de le faire. Et donc ça, c'est des choses à faire à l'interne. Donc les problèmes qui subit le Congo peuvent être d'origine étrangère en partie, mais les solutions seront d'abord interne. Donc, même si, comme tout, dans l'analyse de beaucoup de gens ici au Congo, on dit en fait que voilà, on subit l'agression. Oui, ben, mais pour le résoudre, il faut une solution interne. On va pas demander à ceux qui ont créé le problème de les résoudre. Donc, il y a un vrai besoin d'une vraie mobilisation à l'interne et une réelle mobilisation sur des solutions et des solutions qui sont possibles et des moyens qui sont derrière. Donc, je pense que c'est plus ça, savoir ce qu'on fait à l'interne, dans l'urgence de ce qui arrive au pays, mais aussi dans la perspective des autres événements qui vont arriver. Parce que si déjà en 2012-2013, on avait pris les mesures pour résoudre cette question définitivement, 10 ans après, on ne pouvait pas avoir ce qu'on a.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais rappeler rapidement le thème avant de vous donner la parole, chers invités, pour la conclusion. Malgré la feuille de route du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs en matériel en provenance du Rwanda. Cette déclaration est du porte-parole militaire des FRDC, le général Sylvain Ekenge. Pour lui, le pouvoir de Kigali et le M23 sont en train de saboter toutes les décisions prises par les chefs d'État de la région. Le porte-parole des FRDC, le général Sylvain Ekenge, intervenait dans un message diffusé sur la radio-télévision nationale congolaise lors du briefing de presse de jeudi 1er décembre 2022 organisé par le ministre de la Communication et des médias conjointement avec ses collègues des droits humains et des affaires sociales. Plus d'une semaine après, Quelle évaluation à mi-parcours faire de la mise en application de la feuille de route issue du sommet de Luanda? Dadi Saleh, vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Tous ces sommets, toutes ces rencontres n'ont pas donné les résultats que le Congolais attendait, c'est-à-dire la fin des hostilités. Qu'est-ce que vous vous proposez pour finalement mettre un terme à cette guerre qui a fait beaucoup de victimes, beaucoup de déplacés dans le Nord Kivu? On a suivi le professeur Martin Ziakwaou qui propose, lui, que le gouvernement doit dialoguer, soit avec le Rwanda ou soit avec le M23.
C'est une question très capitale. Il faut bien comprendre que le M23 et Kigali, comme a dit le porte-parole, ça vaut tout parce qu'ils n'en ont pas intérêt. Il faut le dire. Pour eux, c'est la balkanisation et le pillage des minéraux, ce qui est tout à fait normal. Alors, il nous faut une solution politique. C'est-à-dire, effectivement, à court, moyen et long terme. Ce qui fait qu'on est tous d'accord, c'est qu'a dit mes communautés débatteurs, il nous faut un aspect militaire, il nous faut un aspect politique interne, il nous faut un aspect diplomatique, il nous faut un aspect juridique, il nous faut un aspect social. Donc, à court terme, par exemple, très rapidement, je peux proposer la situation de l'article 63, façon d'être capable de défendre la nation éthéreusement. C'est que le chef de l'État a dit, c'est pas constitutionnel, je fais une motivation. Et la Constitution nous donne l'article 63 et l'article 86 parce que nous reconnaissons que c'est les Rwandais qui nous attaquent, donc nous sommes en guerre. À moyen terme, il nous faut une position de défense adéquate. Savoir où il y a des lois comme tous les enfants peuvent faire des études, ça peut être appliqué. Et à long terme, nous avons besoin d'une situation même nucléaire. Je pèse bien mes mots. La République démocratique du Congo peut se taper à une situation nucléaire. Donc, la solution politique dépend du temps. Pour l'instant, sachant que la solution diplomatique s'est achetée, il doit continuer, ça fait d'accord, mais ça n'a pas porté des plus. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas grand-chose à offrir du table et non plus la dissuasion. Il ne faut pas avoir peur de dissuader. Si nous nous organisons de l'interne, comme maître l'a dit, c'est la première grande solution. On s'organise de l'interne, c'est-à-dire une bonne politique pour notre armée et y mettre de moyens. C'est une organisation. Une
Merci.
Bonne politique pour nos politiciens, ça va. Ils doivent cesser un peu leur guerre pour la présidence, ils doivent se mettre dans le secteur, la priorité c'est la sécurité. Donc je m'arrête un peu par là pour dire qu'il y a beaucoup de solutions, mais curieusement, ça ne s'applique pas, je ne sais pas pourquoi.
Merci Dadi Saleh. Professeur Martin Ziakwaou, votre conclusion.
Le problème sécuritaire dans l'est du pays est très complexe. Je pense que c'est une erreur que de réduire la complexité de ce problème à une entité, qu'elle soit étatique ou non étatique. Je pense que, et c'est ça le mot, ma proposition, la RDC doit mettre sur la table une réponse holistique à la complexité du problème sécuritaire dans l'Est. Malheureusement, jusqu'à ces jours, il n'y a pas de réponse holistique. Voilà pourquoi nous sommes dans cette balade diplomatique sans résultat. Le chef de l'État l'a reconnu dans son message à la nation du 3 novembre. Alors jusqu'à quand? Et donc, nous reconnaissons que nous sommes dans une situation d'impuissance, mais il y a une puissance que nous pouvons développer et dont le résultat pourrait être visible à long terme, c'est la puissance de l'intelligence stratégique. Je propose donc que le gouvernement puisse tenir compte de la complexité du problème de l'insécurité dans l'Est et réfléchir sur une réponse holistique à travers ces différentes articulations selon les différents points des problèmes à évoquer. Ça permettra de penser comment nous projeter dans 25 ans pour résoudre un problème vieux de plus ou moins 30 ans.
Merci professeur Martin Ziakwaou. Maître Higien Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, j'ai consigle vos propositions pour mettre fin aux hostilités dans le Nord Kivu.
Oui, bien sûr, je pense qu'il faut justement que chaque acteur qui est impliqué puisse jouer son rôle, et principalement le gouvernement congolais, parce que c'est lui qui a un intérêt d'abord dans la cessation de ce conflit, mais aussi dans la construction de la paix, ce qui sera un processus très long. Mais aussi, il faut à long terme, comme on le disait, que l'on puisse encore réfléchir et faire beaucoup d'efforts pour la construction d'un État congolais, un État qui peut en même temps protéger ses populations, en fait, qui ne puisse pas être à la merci de groupes qui disent les protéger, mais aussi être capable de combattre tout celui-là qui ne croit pas à l'existence de l'État congolais en tant que tel, ou qui choisit plutôt à utiliser des moyens illégaux contre l'État, alors que il peut les exprimer dans un État qui existe, un État de droit, si jamais cet État-là existe.
Merci Maître Rigel Miviri. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui a réalisé cette émission. Merci également à Polydor Basunga qui était à la mise en onde. Merci à Donna Madimba qui nous a aidé à préparer ce magazine. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.